Est-ce que vous avez entendu la nouvelle ce matin ? Jésus a été arrêté par les chefs des prêtres. Il encourt la peine de mort et le grand conseil s'en remet donc au jugement du préfet de Judée pour confirmer l'accusation. Alors bonjour à tous. L'info date pas de ce matin même, hein, vous l'avez compris. Et avant de lire le récit de ce procès qui va avoir lieu là entre Pilate et Jésus, on va le lire dans l'évangile de Marc au chapitre 15. Je vous propose qu'on voit ensemble un peu le contexte historique dans lequel on se situe, ou se situe ce texte en tout cas. Alors nous sommes en 33 après Jésus-Christ, 33 après sa naissance à peu près, quoi, voilà. La Judée à ce moment-là est sous contrôle de Rome. Bien que ça fasse à peu près un siècle que la Judée soit intégrée à l'Empire romain, l'empereur Auguste reconnaît que cette province est particulièrement difficile à gérer depuis la mort du roi Hérode Ier il y a 37 ans de ça. Quelques années plus tard, alors qu'un des fils d'Hérode Ier règne sur la Judée en tant que roi, l'empereur perd patience devant l'incompétence de ce dernier et décide de l'exiler en Gaule. À partir de là, à sa place, l'Empire nommera des préfets pour gérer la province. Ponce Pilate est le cinquième à avoir ce rôle en 26 ans seulement. Ça fait 7 ans qu'il est en poste. Il est de ce fait le détenteur local du pouvoir politique. À côté de ça, vous avez le Grand Conseil qui officie depuis lui fort longtemps, bien plus que 26 ans, en tant que garant de l'autorité religieuse. C'est intéressant d'avoir en tête ce rapport de force entre un Grand Conseil qui, lui, est une autorité reconnue et avec un pouvoir bien ancré par les années et qui doit s'en remettre là à quelqu'un qui n'est pas là depuis très longtemps, qui ne connaît pas très bien les subtilités de la religion juive et dont l'autorité, bien que déléguée par l'empereur romain, n'est pas encore solidement affermie. Peut-être faire le parallèle avec ce qui se passe dans votre entreprise, s'il y a des nouveaux qui arrivent, etc. Vous voyez un peu ce qui se passe dans la tête du Grand Conseil. Mais malin, le Grand Conseil amène donc Jésus devant Pilate au motif d'accusation qu'il se prétend roi des Juifs. Si ce roi des Juifs est entendu par le préfet Ponce Pilate comme un titre relevant d'un pouvoir politique, cela serait à la fois une remise en cause des décisions de l'empereur, Auguste, et une mise en conflit direct entre le pouvoir du préfet, son pouvoir, sur la Judée. Ici, la méconnaissance de Ponce Pilate des subtilités de la religion juive ne lui permet peut-être pas de comprendre qu'il y a une différence entre roi des Juifs et roi de Judée. Voilà, j'ai dit deux, trois trucs. On va lire le texte. Nous sommes donc à Jérusalem, 33 ans à peu près après la naissance de Jésus-Christ. Et on va lire tout ça dans l'évangile de Marc au chapitre 15. Dès l'aube, les chefs des prêtres tinrent conseil avec les responsables du peuple, les spécialistes de la loi et tout le grand conseil. Ils firent enchaîner Jésus, l'emmenèrent et le remirent entre les mains de Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?»« Tu le dis toi-même, » lui répondit Jésus. Les chefs des prêtres portèrent contre lui de nombreuses accusations. Pilate l'interrogea de nouveau et lui dit « Eh bien, tu ne réponds rien ? Tu as entendu toutes les accusations qui portent contre toi ?» Mais au grand étonnement de Pilate, Jésus ne répondit plus rien. À chaque fête de la Pâque, Pilate relâchait un prisonnier, celui que le peuple réclamait. Or, à ce moment-là, il y avait sous les verrous le nommé Barabbas, avec les agitateurs qui avaient commis un meurtre au cours d'une émeute. La foule monta donc au prétoire et se mit à réclamer la faveur que le gouvernement lui accordait d'habitude. Pilate répondit « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Il s'était rendu compte, en effet, que les chefs des prêtres lui avaient livré Jésus par jalousie. Mais les chefs des prêtres persuadèrent la foule de demander qu'il libère plutôt Barabbas. « Mais alors, insista Pilate, que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» De nouveau, ils crièrent « Crucifie-le ! Qu'a-t-il fait de mal ?» Eux, cependant, crièrent de plus en plus fort « Crucifie-le !» Alors Pilate, voulant donner satisfaction à la foule, leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre Jésus à coups de fouet, il le livra pour qu'on le crucifie. J'arrête ici la lecture. Une sale histoire, donc. J'aimerais vous montrer deux points majeurs de ce texte et je découperai donc mon message ainsi. Premièrement, nous verrons la grâce révélée par Jésus à Pilate. Et deuxièmement, nous analyserons les doutes de Pilate dans son rôle de juge. Le déroulement du procès est un non-sens. En tant que lecteur externe à l'action, il est frappant de voir que rien, mais rien dans ce procès, ne se déroule comme imaginé. Pilate lui-même, en tant que juge, n'y comprend rien. On a au verset 5, « Mais au grand étonnement de Pilate, Jésus ne répondit pas. » Un verset qui explique bien la situation, et ça, j'y reviendrai dans ma seconde partie. À l'époque du récit, Jésus, par son enseignement et par ses miracles, est devenu plutôt populaire, c'est le cas de le dire, auprès du peuple. Et est tellement populaire que les chefs des prêtres ont souhaité se débarrasser le plus efficacement possible de lui. Sur le chef d'accusation de se dire roi des Juifs, motif que nous, lecteurs, savons être tendancieux, il l'amène à Pilate afin qu'il juge de sa condamnation à mort. L'apôtre Luc relate dans son évangile le motif de la condamnation avancée par les parties civiles, par les prêtres. Nous avons trouvé cet homme en train de jeter le trouble parmi notre peuple. Il interdit de payer l'impôt à l'empereur et il déclare qu'il est le Messie, le roi. Le procès démarre ainsi. Pilate demande « Es-tu le roi des Juifs ?» À quoi Jésus répond « Tu le dis toi-même. » Je pense qu'au jeu du ni oui ni non, Jésus est un compétiteur hors pair. Jésus ne dit pas qu'il est le roi. Jésus ne dit pas non plus qu'il ne l'est pas. Les chefs des prêtres disent de Jésus qu'il se prétend roi des Juifs. Pilate redit la même chose en les citant. Pour reformuler cette réponse de Jésus tout en gardant le sens de ses mots, je crois qu'il aurait pu dire « C'est cela dont on m'accuse. Et toi, qu'en penses-tu ? » Et vous, vous en pensez quoi ? Jésus était-il le roi des Juifs ? Comme Pilate l'entend, non. Non, il ne l'était pas. Le pouvoir actuellement en place est détenu par Rome. L'empereur, d'une certaine manière, est le roi des Juifs. Il détient l'autorité politique et militaire. Jésus le savait, Pilate le savait, et même les chefs des prêtres le savaient. Jésus n'avait aucune prétention à gouverner qui que ce soit. Toute l'ambiguïté de la situation vient du fait que, oui, il était aussi, d'une certaine manière, le roi des Juifs. Au sens spirituel, il était pleinement roi des Juifs. C'est précisément parce qu'il annonçait publiquement l'être que les responsables spirituels ont une dent contre lui. Pour faire simple, il prend leur place, leur rôle, leur prestige et leur boulot. L'autorité spirituelle dans toute la Judée était tenue par ce groupe de chefs de prêtres. Parce qu'il est Dieu et le Messie que les Juifs attendaient, Jésus est le roi spirituel des Juifs. Et cette affirmation-là, de roi spirituel, n'est pas condamné et condamnable par Rome. Le seul verset 2, cette question de Pilate et cette réponse ou non-réponse, comme on veut, de Jésus, pose toute l'intrigue du procès. Il dit à la fois pourquoi ce procès a lieu et à la fois pourquoi ce procès ne devrait pas avoir lieu. Et la réponse de Jésus amène le doute chez Pilate. Ce doute, on le lit, ça ne le quittera pas de tout le procès. Et plus encore, Matthieu nous raconte dans sa propre narration de ce procès que la femme de Ponce Pilate a averti ce dernier en ces termes: ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car cette nuit j'ai été fort tourmenté par des rêves à cause de lui. Avant de nous concentrer sur les réactions de Pilate, analysons ce que fait Jésus. En réalité, intéressons-nous surtout à ce que Jésus ne fait pas ici. Verset 3. « Eh bien, tu ne réponds rien ?» dit Pilate. En effet, Jésus ne dira plus rien du procès. La défense de ce procès se sera contentée d'une réplique adressée au juge « Tu le dis toi-même ». C'est un peu léger comme argumentation. Et si au contraire, ce ne serait pas là la meilleure carte à jouer par Jésus ? Nous lisons dans la question de Pilate au verset 4 que les chefs des prêtres avançaient une série d'accusations contre Jésus. Alors, prenons la situation suivante. Vous travaillez au boulot sur un sujet un peu tendu. Dans ce projet, vous êtes dépendant du travail d'une autre équipe et réciproquement. Le projet prend du retard et le responsable de l'autre équipe envoie un email à l'attention de votre supérieur hiérarchique en commun. En masquant ses propres manquements, qui expliqueraient en partie le retard du projet, l'émetteur du mail, votre collègue, vous accuse directement de l'état actuel du projet et demande à ce que vous mettiez en place le fameux plan d'action pour rattraper les dégâts. Bien entendu, la réalité est tout autre et, comme souvent, les torts sont partagés. Alors, qu'est-ce que vous feriez ? La tentation est grande de répondre aussi vite que possible en exposant dans les détails les manquements de l'autre équipe afin de montrer que ce qu'on nous accuse de tous ces torts est complètement injuste. C'est faux. Il n'est pas question que votre responsable pense que tout le projet va capoter à cause de vous. Dans son procès, les chefs des prêtres avancent plusieurs fausses accusations contre Jésus et ils se gardent bien d'expliciter l'ambiguïté sur la notion de roi des Juifs. En réponse à ça, Jésus ne répond rien. Au grand étonnement de Pilate, Jésus ne répondit rien. Jésus va à l'inverse de ses accusateurs. Il les prend à contre-pied. Et pourtant, Jésus est un expert de la loi juive. Pilate est un politique et un militaire romain. Jésus, avec toute sa connaissance, n'aurait aucun mal à noyer le poisson, à expliquer la notion de roi spirituel des Juifs et à convaincre Pilate que cet argument n'a rien à voir avec l'autorité de l'empereur. Cela aurait fait, du coup, capoter l'argument principal du procès, et peut-être que Jésus ne serait pas mort à ce moment-là, mais ça, c'est une autre histoire. Jésus, par son mutisme, répond au mal par le bien. Je m'explique. Pour arriver à leur fin, les chefs religieux font de mauvaises choses. Ils accusent sans fondement. Ils profitent de la non-connaissance de Pilate sur l'attente d'un roi spirituel juif. Ils cachent ou détournent la vérité. Jésus, lui, ne rentre pas dans ce jeu-là. Il n'accuse pas. Il ne cherche pas son intérêt en attaquant à son tour les chefs des prêtres. Jésus vient montrer à Pilate ce qui est au cœur de sa mission, la grâce. Sans rien espérer en retour, et surtout au détriment de ses chances de ne pas être condamné, Jésus n'attaque pas, n'accable pas les chefs juifs. C'est cette grâce que les prêtres ne pratiquent pas en l'accusant. C'est cette grâce qui apparaît en filigrane de tout l'Ancien Testament et qui est martelée dans tout le Nouveau Testament. Et entre les deux parties, vous avez Jésus. Christ vient montrer qu'il existe une manière de vivre différente. Une manière où la grâce et le pardon sont au centre. Pratiquer la grâce et le pardon envers les chefs religieux, Jésus, cela lui aura coûté la vie. Et grâce à sa mort, c'est tous les hommes qui accèdent à la grâce et au pardon de Dieu. Jésus, en annonçant et pratiquant ces deux choses, est mort sur de fausses accusations. Ainsi, ici, il a fait basculer une relation compliquée entre Dieu et son peuple, celle de l'Ancien Testament, à une relation restaurée après lui. C'est un état où le péché de l'homme ne vient plus peser sur le lien entre l'homme et Dieu, mais où l'homme est libre de faire le bien. Pour la personne qui ne croit pas en Jésus-Christ, cette non-réaction est comme ces marches silencieuses que l'on voit après certaines affaires dans les médias. C'est un encouragement, une invitation à venir s'intéresser à la vie de Christ et à voir en quoi le message qu'il apporte reste un message avant-gardiste, moderne et utile dans notre société. Cette manière de vivre, les chrétiens sont appelés à la vivre et à garder au cœur de leur vie quotidienne les pensées de grâce et de pardon. Il est stupéfiant de voir que c'est au travers d'un procès injuste que Dieu vient rendre sa justice, qu'il vient promettre l'acquittement de toutes leurs fautes aux croyants qui s'en remettent à Christ. Si vous en avez assez de vivre dans un monde qui est mu par l'injustice, injustice politique, sociale, économique, sachez que nous, chrétiens, croyons qu'il existe une autre voie où l'amour et le pardon sont des vecteurs qui nous animent. Nous nous sommes intéressés en particulier à l'attitude et aux paroles de Jésus. Voyons désormais ces choses chez Pilate. Dans tout le procès, Jésus ne va parler qu'une fois. Une seule fois pour dire « tu le dis toi-même ». Cette économie de grand discours montre à Pilate que la question n'est pas bête. Pilate, là, tu mets le doigt sur la clé de toute l'affaire. La réponse de Jésus est en réalité une question déguisée. Comme je disais tout à l'heure, c'est une manière pour lui de dire « Et toi, Pilate, qu'est-ce que t'en penses ?» Pilate est bien embêté par la réponse de Jésus. Un doute s'est installé en lui. Un doute qui ne le quittera pas, même au moment de prononcer la sentence. Tout d'abord, il y a cette affirmation au verset 5, au grand étonnement de Pilate. Pilate est étonné de la grâce que manifeste Jésus envers ses attaquants. Comme nous l'avons vu dans la première partie, là où on attendait une défense argumentée pour démolir des accusations sans fondement, nous n'avons rien. C'est la première manifestation du doute de Pilate. La seconde, elle est dans le contexte. Juste après cela, il se passe une scène surprenante. Le décor bascule. Voilà que nous parlons de relâcher un prisonnier qui est, comme c'est la tradition à Pâques. Alors, sous couvert de tradition, Pilate tente de se débarrasser de l'affaire. D'ailleurs, vous pouvez noter que Barabbas, le criminel prévu dans le deal, lui, était déjà jugé. Jésus, lui, ne l'est pas encore. La tradition, je pense, aurait peut-être pu attendre que Jésus soit jugé. On n'était pas à 15 minutes près. Pilate a des doutes et il vient de tenter une manœuvre maladroite pour ne pas avoir à juger avec ses doutes. Je qualifie cette manœuvre de maladroite de rater au regard de la réponse des chefs des prêtres. Mais les chefs des prêtres persuadèrent la foule de demander qu'ils libèrent plutôt Barabbas. Pilate dit « Mais alors, insista Pilate, que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» J'aime penser que Pilate est un érudit, un sage même, car il était quand même gouverneur de la Judée, choisi par l'empereur. Toutefois, pense que sur ce coup-là, il a manqué une occasion de se taire. Les chefs des prêtres lui amènent Jésus sur le motif d'accusation qu'il se fait passer pour roi. La seule chose qu'ils ne peuvent pas faire eux-mêmes, c'est le condamner à mort. Quelle réponse pouvait-il attendre de leur part ? « Crucifie-le » crie-t-il au verset 13, puis de nouveau au verset 14. Cet épisode de négociation de la libération de Jésus ou de Barnabas est le second élément de doute de Pilate. Il ne veut clairement pas de cette affaire. Troisième élément, l'auteur nous dit que Pilate s'était rendu compte que les chefs des prêtres lui avaient livré Jésus par jalousie. Difficile de ne pas douter des accusations qu'avancent les chefs des prêtres afin de le faire condamner. Le même passage, la même scène nous est racontée dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 25, si ça vous intéresse, et elle apporte une scène complémentaire qui a donné une expression qui est encore en vigueur aujourd'hui. Quand Pilate vit qu'il n'aboutissait à rien, mais qu'au contraire, l'agitation de la foule augmentait, il prit de l'eau et devant la foule se lava les mains en disant « Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme, cela vous regarde. » Et sur ce point-là, je ne suis pas d'accord avec lui. Du coup, c'est son boulot de juger les condamnations à mort. Le Grand Conseil ne peut pas le faire. Il ne peut pas simplement dire « je le condamne » et en même temps « mais en fait, c'est vous qui le condamnez ». En France, nous avons un système où l'exécutif, le législatif et le judiciaire sont séparés. Ils ne peuvent pas exercer de pouvoir l'une sur l'autre, en théorie. À Jérusalem, lors du procès, le pouvoir judiciaire vient dire aux autres tenants des pouvoirs que le jugement est de votre responsabilité. Pilate vient de condamner à mort Jésus et n'a pas le courage d'affirmer ses opinions. Il s'est laissé porter par la pression ambiante. Le texte dans Matthieu le dit clairement, l'agitation de la foule augmentait. Il faut savoir que sa mission principale vis-à-vis de Rome, c'est de maintenir l'ordre. L'empereur jugera de la réussite de la mission de son préfet à sa capacité à maintenir l'ordre dans sa province. En allant dans le sens de la foule, il cherche peut-être ainsi à éviter les vagues et du coup à remplir sa mission. La tentative de neutralité de Pilate aura causé une erreur judiciaire. De plus, Jésus, par son mutisme, met Pilate dans une situation où il doit agir et choisir. Finalement, Pilate ne choisira pas, mais laissera les prêtres faire le choix à sa place. Puisqu'il n'a pas choisi à temps de libérer Jésus, la foule l'a contraint à choisir de le tuer. C'est le cas dès le moment où il demanda « Mais que dois-je faire de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Pilate, lui, a eu des vrais doutes sur l'identité de Jésus, mais n'a pas eu le courage de prendre la décision en conséquence de ses doutes. Il cède à la pression sociale, il cède au risque d'agitation. Je trouve dans la position de Pilate une certaine forme d'honnêteté face à la situation intenable. Pris entre l'enclume et le marteau, il a reconnu qu'il faisait sûrement une erreur judiciaire. Le message que Christ donne par ce procès et par sa mort nous met tous dans le rôle de Pilate. Alors la question n'est plus tant de juger de la condamnation à mort d'un juste, mais de juger si ce que la Bible dit est vrai. Peut-être êtes-vous en proie à des doutes sur l'accusation que l'athéisme fait au christianisme. Peut-être doutez-vous que la Bible ne soit qu'un gros mensonge bien ficelé, que les chrétiens sont un groupe de crédules prosélytes, et qu'être ici ce matin est au mieux un moment sympa entre amis, sinon une perte de temps hebdomadaire. Peut-être que vous avez ces doutes-là. Dans ce cas, je vous encourage à ne pas refaire l'erreur de Pilate. Ne vous contentez pas de mettre ces doutes sous le tapis en attendant que, par exemple, les grands philosophes athéistes de notre temps fassent leur mea culpa et ne laissent qu'un seul choix possible, celui de croire dans le message biblique. Ça n'arrivera pas. C'est à chacun de nous d'avoir le courage de faire un choix envers ou contre Christ. La Bible nous exhorte à faire ce choix car nous croyons qu'il n'y a pas d'entre deux. Ne pas choisir, c'est déjà refuser Christ et sa promesse de pardon. À tous ceux qui ont déjà choisi de suivre Christ, la réaction de ce dernier doit être un guide pour notre quotidien. Vous souvenez-vous de mon exemple sur l'accusation d'avoir tous les torts dans l'échec d'un projet professionnel? Si nous ne sommes pas empreints de grâce et d'amour envers les autres dans notre quotidien, quel témoignage, finalement, donnons-nous de l'œuvre de Christ? Serions-nous plus proches des chefs des prêtres plutôt que de Christ? Il n'est pas question de se cacher derrière les règles qui définissent la justice de ce monde si nous n'en prenons finalement que les aspects qui nous arrangent. L'injustice du procès de Christ est un exemple du mauvais usage de la justice humaine. Rien de ce qui vient des hommes n'est parfait. Ça peut être bon, mais pas parfait. Vous trouverez mille et une histoires dans votre quotidien qui affirment ça. Par conséquent, avant de justifier nos actes et nos paroles par une justice humaine imparfaite, ayons en premier lieu des paroles et des actes qui recherchent à imiter ce qui est parfait. Mettons la grâce et l'amour de Christ comme première motivation de ce que nous faisons. Je prie. Seigneur, par ton exemple, dans ce procès, tu nous encourages. Tu nous encourages à avoir de la grâce et du pardon dans notre quotidien. Et tu sais ô combien, Père, c'est difficile. C'est difficile quand on est dedans, quand on a des pressions de part et d'autre, pression familiale, professionnelle, d'être à l'image de toi, de faire un choix qui est contraire à ce que nous pensons en premier lieu, de revenir à toi et d'accepter de prendre sur nous les fausses accusations qu'on nous donne. Et tu nous encourages à avoir du courage, dans cette situation, peu importe qu'on soit chrétien ou non chrétien. Tu nous encourages à être fiers de nos opinions, à ressortir de telle ou telle situation en disant « oui, je suis content de ce que j'ai fait ». Ça ne s'est peut-être pas passé facilement, mais je suis content de là où on en est arrivé. Alors que ton esprit nous aide, nous accompagne chaque jour afin que nous puissions te ressembler. Amen.